C'est une joie pour moi de vivre ces moments avec vous ce matin. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et on est heureux de vous avoir parmi nous, que vous soyez en famille pour les fêtes, que vous commenciez à arriver dans l'église ou que vous soyez venu pour l'occasion. Vraiment, on est très heureux de partager ce moment avec vous. Ce matin, c'est vrai, c'est un moment spécial. Même si je dis toujours, nous sommes... Nous, dans les églises protestantes évangéliques, pas trop attachés aux fêtes. Parce qu'en fait, Noël, nous, on ne veut pas y penser une fois par an. Noël, c'est tous les jours. C'est tous les jours Noël pour nous. Parce que tous les jours, nous avons conscience que Jésus est venu, qu'il a accompli cette œuvre merveilleuse de la croix pour nous sauver et qu'il est ressuscité, qu'il vit en nous. Donc on ne se réveille pas d'un seul coup à Noël. Eh, au fait, Jésus est né. J'espère que ce n'est pas votre cas. Nous devons toujours célébrer ces choses. Et il en est de même pour la Pâque, pour Pentecôte. Toutes ces fêtes, nous voulons les célébrer tous les jours. Amen. Mais c'est bien aussi, à des moments, de marquer le coup et de faire quelque chose de spécial. Je ne suis pas contre. Bien au contraire, la preuve. Ce matin, la prédication s'intitule « La table de Noël, les enfants ». La table de Noël. Ça vous fait pas rêver, ça? La table de Noël. Vous êtes prêts à vous mettre à table pour Noël ou pas? Quelle motivation. Ah, c'est les jeunes aujourd'hui, maintenant, c'est ça. Hein, c'est, ils sont à fond, mais... Ok. On va lire dans un texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est pas forcément, vous savez, quand on prépare un culte pour Noël, on cherche les... dans les évangiles ou dans les prophéties, ce qui annonce la venue de Jésus. Mais le texte que Dieu m'a mis sur le cœur, j'y arrive, c'est un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre du prophète Samuel. Et c'est une histoire, on pourrait dire c'est une histoire de Noël. Moi, il y a un truc qui m'embête tous les ans. Et ça commence en octobre, hein. Les téléfilms de Noël. Bref, je vois que ça vous fait rire, mais je sais que vous les regardez, surtout les dames. Allez, avouez les dames que vous les regardez. Et même des fois, vous... Eh bien, je vais vous dire cette histoire... Cette histoire, ça pourrait être un téléfilm de Noël, tellement c'est une belle histoire. Et on va le lire ensemble, c'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 9, versets 1 à 11. C'est David qui est devenu roi d'Israël, et voici ce qu'il va dire. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» à cause de Jonathan. Alors vous allez dire, mais c'est quoi ce truc? Alors, je vous explique un peu. En fait, Saül, c'était le premier roi d'Israël. Mais à un moment donné, il ne s'est pas très bien comporté. Et Dieu a décidé de changer de roi. Et il a demandé à Samuel d'aller oindre David pour être roi d'Israël. Seulement, Saül ne l'entendait pas de la même oreille. Et il a fallu beaucoup de temps pour que David puisse accéder au trône. Puisqu'il puisse devenir roi lui aussi. Et vous savez ce qu'il faisait Saül, les enfants? Tellement ça l'énervait que David ait été choisi pour le remplacer, il a même essayé de le tuer. Donc il y avait une histoire entre la famille de David et la famille de Saül, un peu tumultueuse, on va dire. Et tout ça, ça reste, hein, ça laisse des traces à chaque fois. Et après, ben, Saül s'accrochant au trône et ne voulant pas écouter Dieu, ben, il va finir... malheureusement, lamentablement, sur un champ de bataille alors qu'il y avait la guerre. Il a été tué, puis là, bon, je vous passe les détails puisqu'il y a les enfants. Et le problème, c'est que son fils, Jonathan, par contre, qui était très ami avec David, qui n'était pas jaloux, parce que normalement, ça aurait été lui qui aurait dû prendre le trône après son père. Mais non, lui, il était soumis à Dieu. Et David s'est souvenu de Jonathan. Et c'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül ? J'aimerais m'en occuper en souvenir de Jonathan. Parce qu'en fait, quand il y a eu cette histoire que Saül est mort, que David a pris le trône, et ben, toute la famille de Saül, on les a rejetés, mis de côté. Hein. Ça rigolait pas à l'époque. Et il nous est dit qu'il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Ça veut dire qu'il était handicapé au niveau des pieds. Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, c'est le nom du survivant de la famille de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. » Vous savez que quand Mephibosheth il est arrivé devant Saül, il devait flipper, comme vous dites. Devant Saül ? Devant David. Non, mais c'est pour voir si vous suivez. Essayez un peu de... Et il y en a qui ne suivaient pas. Il y en a qui n'ont rien dit. Moi, à sa place, j'aurais eu drôlement peur. Hein. Parce que vu le contentieux qu'il y a eu entre Saül et David, Saül étant roi et il avait droit de vie, David étant roi, il avait droit de vie ou mort sur les gens, il s'est dit, c'est bon, c'est fini pour moi. Mais il va être étonné parce que David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça va, il est bien servi, Mephibosheth. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. C'est une belle histoire, non? Ah oui, hein, c'est une très belle histoire. C'est les films de Noël. Vous pouvez verser une petite larme, mesdames. Alors, comment ils s'appellent ? Les enfants ? Comment ils s'appellent ? Celui qui a été rejeté, le fils de Jonathan, comment il s'appelle ? Non, David, c'est le roi. Non, Samuel, c'est celui qui a écrit le livre qu'on est en train de lire. Vas-y. Mephibosheth, hein, pas facile à dire. Hein. Vas-y, toi, Naïlis. Mephibosheth. D'accord. Ah, c'est vrai, méfiez-vous des brochettes. Ça peut vous rester sur l'estomac. Il n'y a pas que le foie gras. Alors, parlons de Mephibosheth un peu. Moi, j'aimerais qu'on puisse s'identifier à lui quelques minutes. Mephibosheth, il a été rejeté, banni. Il se retrouve seul, alors qu'il était de la famille royale. Ça doit faire bizarre. Hein. Mephibosheth, il est handicapé, gravement handicapé. Donc vous savez, la situation de handicap aujourd'hui, c'est pas facile. Mais quelqu'un qui est handicapé aujourd'hui, il reçoit une aide de l'État, il a du matériel, il y a des choses aménagées pour lui, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas grave d'être handicapé, mais ce n'est pas comparable à ce que pouvait vivre un handicapé à cette époque. Un handicapé à cette époque, il n'avait qu'une solution, c'est de mendier. S'il voulait avoir des revenus, c'était la mendicité, il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc sa condition était difficile, il était devenu pauvre. Et puis surtout, il se voit comme quelqu'un de méprisable. Vous avez vu ce qu'il dit à un moment donné ? Il se compare à quoi, les enfants ? Il s'est comparé à quoi, Méphibosheth ? Vous avez vu dans le texte ? À quoi il s'est comparé ? Les enfants ! Un chien mort, c'est bien, t'as bien répété ce que papa il a dit. Un chien mort. J'espère que vous ne pensez pas ça de vous, hein. Mais des fois. Méphibosheth, en fait, c'est l'exemple de nombreuses personnes qui voient cette fête de Noël avec beaucoup d'appréhension et de difficultés. C'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette année. J'ai pu partager là-dessus à Lille-Jourdain pour le culte de Noël. Et c'est encore la pensée du Seigneur ce matin. Le Seigneur a une attention particulière pour tous ceux qui souffrent dans ces moments. Alors que certains vont se réjouir, dresser des belles tables, certains vont être dans une tristesse infinie pour différentes raisons. Et je voudrais m'arrêter sur trois versets qui ont retenu mon attention ce matin dans ce texte que nous venons de lire. Tout d'abord, au verset 3, il est dit « Il n'y a plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. » Alors que plus personne ne prête attention à la famille de Saül, Saül qui a été adulé, sa famille est devenue rejetée, mise au banc de la société, plus personne ne prête attention à eux, quelqu'un va s'inquiéter de leur sort. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui se préoccupe de leur sort. C'est le roi lui-même. Et j'aimerais te dire, alors peut-être il te semble que personne ne se préoccupe de toi. Dans ces temps particuliers, où tu vis ça comme une douleur extrême, où tout le monde pense à la fête, et toi tu es seul. J'aimerais te dire que cette impression, elle est fausse. Tu n'es pas seul. Quelqu'un se préoccupe de toi. Quelqu'un se préoccupe de toi. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le Prince de la paix. Il se préoccupe de toi dans ces moments où tu souffres, où tu es seul. Dieu a envoyé son Fils, ce Jésus dont on parle ce matin, pour toi personnellement. Il se préoccupe de toi personnellement. Le texte a été lu tout à l'heure et je veux le relire dans Jean 3,16. Il est dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un petit peu d'argent, sa mobylette, sa super Mercedes. » Il a donné son fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, quelque chose sur laquelle on ne peut pas mettre de prix puisque ce n'est pas une chose, c'est une personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne meurs pas mais que tu aies la vie éternelle. Le deuxième verset qui retient mon attention ce matin, c'est la vision que Méphibosheth a de lui-même. Oh là là, ça fait mal hein, d'entendre ça. Quelqu'un qui dit « je suis un chien mort ». Vous avez jamais entendu des gens dire des choses très dures sur eux-mêmes ? Moi, ça m'est arrivé. Hein. Et on est désemparé parce que déjà, on sait que c'est pas vrai. Mais quand même, si la personne le dit, c'est que c'est ce qu'elle ressent vraiment. Alors on peut dire, mais non, c'est pas vrai. C'est pas en lui disant c'est pas vrai qu'elle va changer d'avis. En fait, au verset 8, il est dit, que Méphibosheth s'est prosterné, il a dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Ce n'est pas une bonne chose de dire des choses pareilles sur soi-même. Mais j'aimerais vous dire ce matin que peut-être, dans une certaine mesure, c'est bien de penser ainsi parce que la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et misérables. Et en fait, pourquoi Méphibosheth dit ça? Parce qu'il est en face du roi et qu'il se compare au roi. Et que là, d'un seul coup, il se rend compte qu'il est rien. Et en fait, j'aimerais vous dire que, oui, Dieu s'est préoccupé de vous, il a envoyé Jésus, mais lorsque Jésus se présente à vous, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir ce sentiment qu'on n'est rien. Parce que ça veut dire qu'on a compris qui est Jésus. Vous savez, il y a tellement de gens qui arrivent devant Dieu en levant le poing et disant « Alors, qu'est-ce que tu fais? Et s'il y avait un Dieu ?» Et alors, tu vois pas tous ces enfants qui meurent et ça, qu'est-ce que tu fais? Entre parenthèses, c'est pas Dieu qui tue les enfants qui meurent, hein. C'est les hommes. Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'on devrait se présenter devant lui en se prosternant et en ayant l'impression d'être comme des misérables. C'est ça la bonne attitude. Pierre, après la pêche miraculeuse, dans Luc chapitre 5, verset 8, quand il voit que Jésus est capable de voir les poissons où lui, le professionnel, n'a pas pu les trouver pendant toute une nuit avec tous ses équipiers, il est bouleversé de voir la puissance de Jésus qui voit au fond de la mer où sont les poissons et son réflexe, c'est pas de dire « Ah, merci Jésus, t'es sympa, tu nous as sauvé la mise. » Non, pareil, il tombe à genoux, il se prosterne et il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Voilà la bonne attitude que l'on doit avoir devant peut-être l'image de Jésus qui se donne pour nous. Ne soyons pas des revendicateurs, mais soyons de ceux qui s'humilient et qui reconnaissent justement que c'est un cadeau d'avoir Jésus parce que nous étions misérables et lui fait de nous des gens de valeur grâce à sa mort sur la croix. Amen. Ce que je dis n'est pas pour vous rabaisser, puisque regardez ce que va dire Jésus après que Pierre lui fasse cette déclaration. Ça n'entraîne pas le rejet de Jésus de dire « je suis misérable ». Et de la même manière que David, quand il a entendu Méphibosheth dire « je suis un chien mort », il lui a pas dit « ah, t'es un chien mort, bon allez, circulez ». Il l'a accueilli quand même. Et Jésus, quand Pierre tombe à ses pieds et dit « Je suis un pécheur, retire-toi de moi », Jésus ne se retire pas. Mais bien au contraire, regardez ce que dit Jésus. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, donc n'aie pas peur. Oui, tu es misérable, oui, devant moi tu as l'impression d'être rien, mais n'aie pas peur. Désormais, tu seras pécheur d'homme. » C'est-à-dire Jésus en train de lui dire ce qu'il va faire de sa vie. Lui qui est rien, qui est misérable, Jésus va être capable de faire de lui quelqu'un de bien. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. C'est-à-dire, peut-être la première nouvelle, elle est mauvaise, c'est-à-dire qu'on est tous pécheurs, misérables. Ça ne fait pas plaisir, je sais, mais c'est la vérité. Et je parle pour moi en premier. Mais la bonne nouvelle de Noël, c'est que Jésus nous sort de cette misère. Et il nous élève vers le haut. Il fait de nous des personnes extraordinaires à son service. Et je le dis souvent, mais à chaque fois qu'on vous fait un compliment, profitez-en pour donner gloire à Dieu. Et dites, il n'y a rien de bon en moi, ce que tu vois, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait ça en moi. Amen. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas une haute estime de ta personne. C'est un bon point pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, ce n'est pas les gens qui croient être quelqu'un qui rentrent facilement dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui ont compris qu'ils ne sont rien. Et si tu penses que tu n'es rien, sache qu'il y a déjà le regard de Jésus sur toi et que lui, de ce rien, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Fais-lui confiance. Change de discours. Oui, dis « je ne suis rien », mais Jésus va faire quelque chose de ma vie. Et le troisième et dernier verset qui a retenu mon attention, c'est le verset 11. Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Ici, c'est Tsiba qui dit ceci, mais je pense qu'on pourrait y associer Mephibosheth. David, il a pris sur lui. Il a renoncé à son amour propre, parce que dans un premier temps, il a quand même accepté que la famille de Saül soit mise au ban. Et je pense que le travail du Saint-Esprit en lui a fait qu'au bout d'un moment, il a dit, mais c'est pas normal. Il a voulu et il a pensé, le Seigneur a permis et lui a rappelé son amitié avec Jonathan. Et il a voulu faire quelque chose. Mais il a pris sur lui. Et j'aimerais vous dire que Jésus a pris sur lui aussi. Il a renoncé à la gloire du ciel. Puis il a renoncé à sa propre vie pour que toi, tu puisses être accueilli à la table du roi. Amen. Tu puisses être accueilli à la table du roi. Jésus, lui, il est venu de la manière la plus humble qui soit, non pas dans le faste, mais dans une simple étable, on l'a entendu. Et je voudrais justement partager une histoire, des images, pardon, extraordinaires ce matin avec vous. Regardez les diapos qui viennent. C'est beau. Doucement, doucement, mon ami, doucement. Nous avons le temps. Ça va? Je vois qu'il y a des estomacs qui commencent à... Ah, ce sont des belles tables, hein? Est-ce qu'elle est belle, cette table? Ah. Vous savez que c'est une table, ça? C'est une table pour... Ah, non? Ça sert à quoi, ça? C'est quoi qu'il y a dedans? C'est une table pour les veaux, les vaches, comme on a dit, Chloé. Ouais. C'est une mangeoire, ça veut dire c'est une table. On met à manger dedans pour les animaux. Et vous savez qui a été posé sur cette table? Jésus, lorsqu'il est né, on l'a mis. Ça a été son berceau à Jésus. Regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 2, versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha où? Dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Jésus a été posé sur une table d'humilité. Et il faut que nous comprenions tout ce que cela entraîne en fait. Jésus, il est venu pour les humbles. Il est venu pour que les humbles puissent s'asseoir à sa table. Lui, il n'est pas dans les grandes tables de Noël avec la déco, avec de la nourriture en abondance. Il est avec sa simplicité et son humilité. En fait, le monde, l'homme, dresse des tables d'injustice. Ce soir, beaucoup d'entre nous vont réveillonner, manger, se réjouir, pendant que d'autres vont pleurer. Ça, c'est les hommes. Ça ne vous interdit pas de le faire. Mais c'est comme ça, c'est injuste, c'est profondément injuste. Mais la table de Jésus, elle est pour tous. Elle est pour tous. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre, un rang. Tu n'as pas besoin de venir avec quelque chose. Tu viens tel que tu es. Et Jésus t'accueille à sa table. Amen. Ça, c'est la table de la justice. La justice de Dieu qui ne met personne de côté. Mais il est dit, quiconque croit en lui ne périra point et il aura la vie éternelle. Il n'y a pas des gens qui sont élus, qui sont choisis. C'est quiconque croit qui sera sauvé. Amen. Je conclue ces moments. J'aimerais au travers d'un dernier verset vous montrer ce qu'a été le ministère de Jésus. L'enfant envoyé de Dieu. Et ce ministère qu'il a exercé sur la terre, il l'exerce encore en haut du ciel. Là où la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu, parce que Christ est ressuscité. Souvent, On va dans les églises partout, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus sur la croix. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Ce n'est pas sa mort que je veux retenir. C'est le fait qu'il est ressuscité. Amen. Et dans l'évangile de Marc, l'auteur nous dit ceci. Marc chapitre 2, versets 15 à 17. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, les publicains, c'était des gens qui collectaient l'impôt pour César, et donc forcément, ils étaient rejetés de la population. Mais Jésus les accueille, lui. Et il y avait aussi les gens de mauvaise vie. On sait qu'il pouvait y avoir des prostituées, des gens qui avaient mal agi, des brigands et de toutes sortes. Et ils se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Toutes ces personnes rejetées, elles étaient attirées par Jésus. Et si tu es rejeté, sache que tu peux être attiré par l'amour de Jésus. Mais par contre, les religieux, les scribes, les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Ça, c'est le ministère de Jésus. Il n'est pas venu pour ceux qui s'y croient, qui pensent qu'ils sont bien, qu'ils n'ont rien à changer, qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et le problème des religieux, et nous devons faire attention de ne pas leur ressembler, c'est qu'ils croyaient qu'eux n'avaient pas besoin de Jésus, qu'ils étaient bien par eux-mêmes. Alors que ces gens de mauvaise vie, ces publicains, eux, ils avaient une image d'eux qui n'était pas terrible. Et voyant en Jésus un espoir. Amen. La table de Noël, c'est la table de Jésus à laquelle tu es invité. Amen. Pas seulement à Noël, mais toute l'année. Toute l'année, tu peux manger à la table du roi. Amen. Toute l'année, comme Méphibosheth, tu peux rejoindre la table du roi. Comment tu rejoins la table du roi? Ben, lis la Bible. C'est la nourriture que Dieu te donne. Lis la Bible. Viens aux réunions. À l'église où la parole est enseignée, viens te nourrir de la présence de Dieu aussi, de la louange, de la communion fraternelle. C'est tout ça qu'il y a sur la table de Dieu. Toutes ces choses sont sur la table de Dieu, elles sont pour toi. Ne t'en prive pas. Il y a tellement de gens qui se privent du festin que Dieu a dressé pour eux. Ils le regardent. Vous vous rendez compte si vous étiez invité ce soir avec des chocolats, des. Ouah. Des trucs super bons, et vous passez à côté, vous faites. Et vous partez. Vous vous rendez compte, la personne qui a préparé tout ça? Oh. Mais en fait, c'est ce qu'on fait subir à Dieu. Hein. Il a préparé une belle table, et on passe à côté, on fait. Que personne d'entre nous soit comme ça, je l'espère, de tout mon cœur. Jésus se préoccupe de toi, pas simplement avec des mots. Il a donné sa vie pour toi. Il a tout accompli pour toi. Il t'accueille malgré ton péché. Il t'accueille et veut te remplir de paix et d'amour malgré les difficultés que tu connais. Certains, je le sais, et d'autres, je ne le sais pas, vivent des moments difficiles. Mais tu peux venir, peut-être pas te réjouir, mais te blottir dans les bras de ton Sauveur. Te sentir réconforté dans ces temps de fête où peut-être tu souffres intérieurement, eh bien approche-toi de Jésus. Ne pleure pas, ne souffre pas, viens près de lui. Même si tu ne fais pas des sauts partout pour te réjouir, et on le comprend si ta situation est difficile, mais au moins viens te blottir dans ses bras. Viens te réfugier dans son amour. Il est là pour te donner sa paix. Ésaïe l'a annoncé comme le prince de la paix. Et il est vrai, et Jésus le dira, je vous donne ma paix, non pas celle que le monde donne. Et croyez-moi, nous qui connaissons le Seigneur, nous sommes capables d'attester ici ce matin que dans des moments, les pires moments de nos vies, Dieu peut nous donner la paix. Amen. et vous êtes invité à vivre cette expérience. Cette parole qu'a dit Tsiba et que certainement devait partager Mephibosheth, « Oui, je suis ton serviteur et je vais faire tout ce que tu vas m'ordonner. » C'est ce à quoi je vous invite. En recevant Jésus, vous recevez la réhabilitation, vous êtes relevé et vous devenez une personne de valeur, mais il y a quelque chose qui doit suivre. Parce que moi, j'essaie de me mettre dans la tête de Mephibosheth, mais il devait, par rapport à David, mais avoir une reconnaissance, mais un truc de fou. Vous vous rendez compte d'où David l'a sorti ? Et il l'accueille tous les jours à sa table ? Waouh ! Mais je pense qu'il devait dire, mais je ne trouve pas les mots. Et ça doit être notre attitude de cœur vis-à-vis du Seigneur. Qu'on soit redevable, mais pas juste avec des paroles, « Oh, je te loue, Seigneur, oh, ils sont beaux, ces cantiques. » Non, la redevabilité, c'est de dire, « Seigneur, je veux être ton serviteur, ordonne et je ferai ce que tu me dis. » Amen. On va prier. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, merci Père. Merci Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Oui, c'est vrai. Comment trouver les mots pour te remercier? C'est tellement énorme ce que tu as fait. Moi qui suis méprisable, qui aurais dû être rejeté de toi, tu m'accueilles tous les jours à ta table. Et je peux attester ici que à ta table, il y a des choses extraordinaires qui sont proposées. Et c'est un délice. C'est un régal de venir se présenter à ta table chaque jour. Merci pour la table de Noël que tu dresses, cette table de justice, non pas celle que vont dresser les hommes ce soir, mais la table de justice, celle qui accueille tout le monde et en priorité les plus rejetés. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, tout simplement. Nous te bénissons. Je prie que personne ne parte d'ici sans avoir reçu cette grâce, sans avoir compris qu'il a été réhabilité, qu'il va devenir quelqu'un de valeur par l'action que tu vas faire dans sa vie, et que chacun puisse avoir repartir en ayant ce désir de te servir et de t'obéir. Combien nous te rendons grâce, Seigneur. Combien nous te bénissons, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever quelques minutes tous ensemble et dire un grand merci au Seigneur? Amen, vous êtes d'accord? De le remercier. On le loue tous ensemble. Seigneur, oui, nous te rendons grâce, te bénissons. Merci pour ces moments. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous étions misérables et tu as fait de nous des fils, des filles de rois qui mangent à la table du roi. Seigneur, nous voyons où nous étions et où nous sommes aujourd'hui et nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur.